L'antenne est à vous. Avec Roland.
Eh, hey, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Effectivement, c'est bien Roland qui est là, en parfaite forme, aidé de notre petit Sacha, qui lui, alors, il carrément, il pète la forme. Hein, Sacha, tout va bien ? Bon, ça va. Et donc, nous sommes bien, pour ce lundi soir, encore une nouvelle fois, dans l'antenne est à vous, sur Fly FM. Et je sais que j'ai eu des statistiques dernièrement, et je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, donc ça me fait très plaisir, très très plaisir. Alors ce soir, je vais accueillir un homme, qui est dans l'écriture. Hein, donc c'est un écrivain, voilà. Et je pour tout vous dire, faire un petit peu le point, je l'ai rencontré au salon du livre de d'Alten des Palus. Quand il y a deux ans maintenant, non? Ou c'est ou parce que l'an dernier, non? C'était l'an dernier, oui, je dis deux ans, oui, parce que ils l'ont pas fait cette année-ci.
C'était réédité effectivement. J'étais présent aussi en juin dernier.
Ça a été fait.
Ça a été fait aussi au même endroit.
D'accord. Ben, c'était sympa, non ? Il y avait toujours.
Toujours bien accueilli.
Ah, il y a une bonne ambiance. Hein.
Toujours très bonne ambiance. Après, à force de tourner, on commence par se connaître les uns les autres.
Oui. Ben, tu sais que Alors. Il faut vous dire, chers auditeurs, que dans le milieu de l'écriture, c'est un peu comme à la télé, un peu comme dans le milieu du sport, on se tutoie. Hein.
Tout à fait.
Automatiquement, nous, on est comme on est des. Ben, parce que bon. La plupart savent que j'écris un peu. Et donc, voilà. Hein, alors, on va se tutoyer.
Bien sûr, avec plaisir.
Voilà. Et donc, oui, je disais que tu as participé. Donc, il y avait à peu près tous ceux qu'il y avait l'année d'avant, quoi. Ou...
Il y avait à peu près les mêmes personnes. Ouais. Il y avait même des auteurs nouveaux que je ne connaissais pas, mais ça a permis de faire connaissance, comme pour chaque salon du livre. Mmh. Des auteurs jeunes, même.
Ah bon ?
Je crois que le plus jeune avait 14 ou 15 ans.
Ouais, mais c'est pas bon pour nous, ça.
C'est bon parce
qu'ils vont nous prendre la place. Hein.
C'est bon pour l'écriture, puisque finalement, ils permettent, je pense, aussi d'attirer les plus jeunes générations vers la lecture et pourquoi pas vers l'écriture. Donc,
mais alors, ces jeunes, justement, je te coupe.
Oui.
Ils écrivent, justement. Pour les jeunes, ou est-ce que, parce qu'ils écrivent, je veux dire, des romans comme tout le monde, comme nous, quoi, pour les plus âgés, ou est-ce que vraiment ils font l'écriture pour les jeunes de leur âge, quoi, etc. Est-ce que vraiment ils sont versés uniquement là-dessus ?
Pas que, j'ai pas l'impression que c'est exclusivement versé vers une génération. J'ai vu de jeunes auteurs, je pense à une jeune auteure qui est un peu plus âgée, qui a 22, 23 ans, qui fait des études de lettres et qui écrit des romans, qui s'adresse à toute génération confondue. Puis il y a également des auteurs plus expérimentés qui écrivent aussi pour les jeunes. Donc j'ai vraiment le sentiment qu'il y a des croisements entre les écrivains plus âgés qui écrivent pour les plus jeunes et inversement. Aussi.
Et oui, mais il y en a une, je sais pas si elle devait y être, elle est d'Alten des Palus, justement, qui fait des petits, avec des dessins, carrément, Aline, ou je sais pas comment, c'est un nom, elle est d'Alten, et c'est une dame qui doit avoir 65 facile, et c'est vrai qu'elle fait des livres pour enfants, pour ainsi dire.
Oui, avec des mélanges de textes, d'illustrations, c'est quelque chose qui plaît beaucoup, j'ai l'impression qu'on en voit de plus en plus.
Ouais.
Ça permet de lier l'écriture avec l'illustration. Il y a ce gros travail. Moi, je ne suis pas dans le dessin, mais je reconnais qu'il y a un travail chez ces auteurs de faire concorder justement le dessin avec le texte. Parfois, ils travaillent en binôme. Il y a celui qui écrit et celui qui réalise les dessins. Donc,
comme Uderzo et Goscinny.
Par exemple, voilà, Uderzo et Goscinny de tout type de littérature, également lecture pour enfance. Mm-hmm. Je trouve ça pas mal.
Ah, c'est sympa. Alors, les auditeurs, ils vont dire, mais attends, il parle, mais il n'a pas présenté encore. Alors, ce qu'on va faire ce soir, ben, tout bêtement, c'est toi qui vas te présenter.
Oui.
Hein, comme si tu étais l'animateur.
D'accord.
Alors vas-y, alors.
Alors c'est une première, je n'ai pas été rédacteur en chef, mais merci de me l'accorder dans quelques secondes, je n'abuserai pas. Donc, je m'appelle Pierre-Jean Marcelin.
Alors, Pierre-Jean.
Pierre-Jean est à mon prénom.
On dit, voilà. Alors, donc, que ce soit bien clair, on t'appelle Pierre-Jean ou Pierre tout court, ou comment, parce que, ou PJ.
Alors, soit Pierre-Jean, soit PJ, c'est les deux, ça dépend des personnes.
Si on est feignant, on dit PJ.
Voilà, tout à
bon,
fait.
Moi, je t'appellerai PJ.
D'accord, avec plaisir. C'est vrai que quand on a des prénoms longs, on peut très vite raccourcir en les réduisant à deux lettres, ça fonctionne.
Ben oui. Alors, vas-y, excuse-moi, je t'ai...
Mais pas de souci.
Je t'ai coupé, dis-moi ouais. Tout, PJ.
Alors, à ce jour, je suis auteur de deux ouvrages. Le premier ouvrage, c'est un recueil de poèmes. En fait, ce sont les poèmes que j'avais écrits entre 18 et 25 ans, qui ont dormi pendant quelques années dans un fond de tiroir, jusqu'au jour où je me suis dit, tiens, pourquoi pas en faire quelque chose. Et donc, j'ai contacté un éditeur, Eddy Livre, qui a accepté justement de publier ce recueil des poèmes. Mm-hmm. Et deux ans plus tard, j'ai édité un roman. Alors, c'est un roman que j'ai mis quand même 5 ans pour l'écrire, puisque j'écrivais vraiment sur mon temps personnel. L'écriture n'est pas mon activité principale. Et puis bon, je pense que ça donne une certaine liberté aussi d'avoir une activité professionnelle qui rémunère et d'avoir le loisir d'écriture. Enfin, en tout cas, ça me permet d'écrire tout à fait librement. Okay. Et c'est le roman qui s'appelle L'Aurore incertaine, qui est un roman contemporain qui se passe dans la société d'aujourd'hui, qui raconte des tranches de vie de personnes qui se reconvertissent dans la vie professionnelle.
Okay. Alors, en parlant de vie professionnelle, donc, parce que c'est intéressant à savoir aussi, donc tu bosses, c'est indiscret de savoir dans quoi, etc.
Non, c'est pas indiscret, je suis agent administratif.
D'accord, voilà, c'est tout. Et par contre, ton âge, bon, tu es un garçon. Je peux te le demander.
Bien sûr, j'ai 37 ans.
37 ans. Et 37 ans, donc, Sacha me fait un petit signe. Tu vois, tu as remarqué ?
Oui.
Ah oui, mais là, il n'est pas gentil. Chaque fois, il me coupe. Alors, bon, mon Sacha, qu'il nous reste une minute. Ah oui, alors, c'est ça que je voulais te demander. Tu as 37 ans, et donc, tu as commencé à écrire à quel âge ?
Alors, j'ai commencé à écrire très jeune, et j'ai toujours plus ou moins écrit. Déjà, à l'âge de 13 ans, j'avais écrit une nouvelle, qui est toujours dans un fond de tiroir, d'ailleurs. Mais j'ai vraiment commencé... Après, entre 18 et 25 ans, j'étais plus actif sur la poésie, sur les airs. Et c'est vers l'âge de 30 ans que j'ai commencé vraiment à mettre en forme justement des fictions et que le roman est né quelques années après.
Ok, et pourtant, donc tu as écrit de 18 à 25 ans, mais tu n'as édité peut-être que le premier recueil de poésie, quel âge tu avais, c'était il n'y a pas longtemps, si ?
Non, quand il a été édité, j'avais 31 ans, 32
donc,
ans.
Donc tu as quand même mûri tout ça avant de...
Tout ça a mûri, effectivement. Et puis le roman qui a été édité 2 ans plus tard.
Ouais, bon, alors on va s'arrêter. Tu as vu comment. Hein
ouais, oui, non, mais.
Bon, mon cher PJ.
Bien organisé.
Voilà, mais attention, puis je me fais tirer les oreilles, c'est. Notre petite zizik, et après ça revient à nous. À tout à l'heure, chers auditeurs.
Fly FM. Tout de suite, une nouveauté Fly FM.
Lie to myself, but I don't believe a word. And I try to sabotage it, but when you're gone, it hurts. And I used to get cold feet. I never go too deep. I'm scared of the sound of a heartbeat. But it's undeniable what I feel for you. You know I've been wrong before, but you're undeniable. But it's undeniable.
Voilà sur Fly FM. Alors, nous sommes toujours en compagnie de notre écrivain du soir, Monsieur Marcelin, qui donc nous disait qu'il avait fait deux livres de poésie, ça vous dit des livres aussi,
oui.
et un roman. Alors, par contre, moi, tu sais que j'aime bien un petit peu bien connaître les gens. Alors, on va faire un petit peu ton curriculum vitae, hein, parce que c'est pas tout le monde qui a le même parcours, souvent, pour arriver justement ou à l'écriture ou à la peinture, etc. Alors, tu vas nous dire, bon, tu es déjà où est-ce que tu es né?
Alors, je suis né et j'ai grandi à Miramas, dans les Bouches du Rhône.
C'est pas loin.
C'est pas très loin.
Bon. On accepte, hein, c'est la PACA, ça va. Allez. Alors, oui, alors tu... études normales, scolaires normales.
J'ai fait effectivement toute ma scolarité sur Miramas jusqu'au baccalauréat.
Ouais.
J'ai ensuite poursuivi en faculté de droit à l'antenne universitaire d'Arles, qui dépend de la faculté d'Aix-en-Provence.
Ouais.
Tout à fait. Après un petit passage en notariat, j'ai poursuivi dans des études d'urbanisme pour travailler. J'ai commencé dans le privé, puis ensuite dans le public. Voilà, un parcours un peu atypique, mais...
Mais comment un poète, il peut être urbaniste ?
La ville inspire aussi pour écrire. D'ailleurs, dans certaines des poésies, il est question de ville.
D'accord.
Et là, je suis en train de préparer l'édition d'un prochain recueil de nouvelles, cette fois-ci.
Ah, des nouvelles.
Et d'ailleurs, chaque nouvelle se passe dans une ville. Il y a
d'accord.
neuf nouvelles et une nouvelle par ville.
C'est sympa, ça.
J'ai pris une ville du Vaucluse.
C'est où ?
Carpentras.
Oui,
ce sera Carpentras.
Oui, il y a de quoi faire.
J'ai pas passé suffisamment de temps à Monteux pour y aller sur Monteux, mais peut-être un prochain.
On t'aboudra pas.
Alors ça va. Peut-être qu'en sortant de l'émission, j'aurai peut-être une idée entre la radio et la voiture. Je te le dirai au cas où.
J'ai fait un bouquin, moi, sur Monteux, justement.
D'accord.
Les rues, etc. Je te le ferai passer.
Avec plaisir.
Et comme ça, tu pourras un petit peu t'inspirer. Alors, dis-moi tout. Tu as carrément abandonner la poésie ou tu as mis ça sous... Parce que c'était ton jeune temps qui voulait ça, que tu fasses de la poésie plutôt que du roman ou...
C'était le jeune temps, c'était l'époque où j'étais étudiant surtout,
ouais.
où j'écoutais beaucoup de musique, la musique inspirait aussi.
Eh oui.
Quand on est étudiant, on passe beaucoup de temps effectivement à étudier, ça prend énormément, c'est assez chronophage.
Ah oui.
Donc c'est vrai que... C'était une sorte d'exutoire, tout à fait.
D'accord.
Ça permettait d'exprimer plusieurs choses en même temps, de ne pas se concentrer sur une seule histoire, sur une seule fiction.
D'accord.
L'écriture d'un roman demande, enfin, en tout cas, ça m'a demandé une méthode de caler les événements dans une chronologie, d'être cohérent sur les tempéraments des personnes, parce que je passe beaucoup de temps à décrire la psychologie de chacune et de chacun.
Oula, oui.
En tout cas, dans l'Aurore incertaine, le roman que j'ai publié en 2021. Donc,
mais rassurons-nous, c'est un roman qui se lit facilement quand même.
C'est pas
un roman de psy.
Je n'ai pas la prétention d'être psychologue, ni même sociologue.
Oh, d'accord, donc ça se lit facilement.
Donc ça se lit facilement. C'est, comme je disais, c'est l'histoire de tranche de vie, puisque c'est l'histoire en fait d'un ancien journaliste qui est appelé par le maire d'une commune qui quitte ses fonctions politiques, qui lui demande de travailler la communication de sa sortie politique et qui accessoirement lui demande de préparer la campagne de sa dauphine. Et donc à partir de là, cet ancien journaliste va devenir conseiller en communication. Alors là c'est pareil, il ne s'agit pas non plus d'un livre politique, ça sert de décor en fait, pour emmener les personnages entre eux et puis leur faire naître des sentiments, des doutes.
Il y a un peu des histoires d'amour, des histoires d'amitié,
des histoires d'amour, d'amitié,
c'est pas rébarbatif, donc,
d'ambition.
On ne parle pas que des choses qui se passent dans les mairies ou pas, etc.
Pas du tout, ça se passe pendant une campagne électorale. Où il y a des amitiés, des adversités qui naissent, qui se constituent. Mais c'est vraiment j'aurais pu choisir le monde de l'entreprise, j'aurais pu choisir quelque chose.
Mais en fait, c'est vrai que il y a de quoi faire avec le monde politique.
Il y a de quoi faire.
Ouais, c'est pas évident. Hein.
Et d'ailleurs, ça se passe dans une ville complètement fictive pour éviter justement toute ressemblance, toute orientation, puisque le but est justement
de ne pas prendre parti.
Le but était vraiment là.
Alors, je reviens à la poésie. Toujours, parce que moi, je n'ai jamais écrit, je n'ai jamais eu la nécessité. Alors, j'ai une question que je me suis toujours posée. Dans quel état faut-il être pour écrire une poésie ? Alors, tu vas me dire, il y a plusieurs états, etc. Mais quel est le meilleur état pour... Est-ce qu'il faut de la mélancolie ? Est-ce qu'il faut être, au contraire, heureux ? Est-ce qu'il faut... Il paraît que les chagrins d'amour, c'est fantastique pour ça.
Ça aide.
Tu as l'air de parler à un connaisseur. Sacha, je ne suis pas gentil. Je le mets sur le grill. Alors, excuse-moi.
Pas de souci. Non. De toute façon, je le parle avec recul et détachement. Ouais. À passer.
Alors,
c'est vrai que pour répondre à ta question, tu me dis dans quel état il faut être, je dirais plutôt dans quel état il faut avoir été.
D'accord.
Personnellement, c'est vrai que quand je suis dans un état qui soit mélancolique, joyeux ou autre, c'est pas forcément l'état qui va pousser à l'écriture.
D'accord.
C'est une fois que l'état est passé qu'on prend du recul justement sur cet état qu'à ce moment-là, on y repense, qu'on arrive à avoir suffisamment de recul encore pour l'altérer.
Mais est-ce que tu l'enjolives pas un peu alors dans ces cas-là ?
Après, j'appelle ça, c'est de détachement romanesque. Donc c'est
parce que si c'est la personne qui t'a quitté, tu vas dire je l'ai quitté.
Non, mais après, il faut.
Tu ne mens pas.
Voilà, après, il ne s'agit pas de dire exactement la vérité ou de mentir complètement, mais il s'agit après de se dire voilà, à un moment donné, il y a eu cet état-là, il y a eu cette réaction-là. Bon, dans quel contexte on peut le situer ? Je repense par exemple à mon personnage principal qui est le narrateur du roman qui est un ancien journaliste, qui à un moment donné se retrouve et confronté à une rupture. Bon, ce personnage-là, ce n'est pas moi, et puis la rupture qu'il a eue, ce n'est pas non plus mon ex-compagne, mais ça va être, par exemple...
Pourtant, ce n'est pas toi. Flaubert disait « Madame Bovary, c'est moi ».
Alors, ça peut. Alors, il y a toujours une part de nous-mêmes dans ce qu'on écrit.
Oui, je connais.
Ça, on est d'accord.
Je connais ça.
Mais après, il s'agit de mettre le personnage dans un contexte différent du nôtre pour ensuite tisser un environnement. Et puis, après, on lâche le personnage dans l'environnement et quelque part, la créature, elle échappe à son créateur.
Complètement.
Et il se passe après.
D'ailleurs, je crois que dans l'écriture, on ne va pas faire le psychologue ou le philosophe, mais je crois que c'est ça le plus beau dans l'écriture. C'est quand tes personnages, te lâche entre les mains, tu te dis mais comment tu te relis.
Oui, non, mais c'est ça, il se passe quelque chose à un moment donné.
Mais comment pourquoi il en est venu là?
C'est ça, c'est qu'à fois de plus avec une bande d'amis ou une bande de personnes que l'on fréquente et qui vivent leur histoire.
Ah, mais c'est fou. Voilà. Oui, exactement. Sacha, tu as vu qu'il m'a encore coupé, Sacha? Je te fais remarquer. Hein. Son problème, c'est que pas de paye à la fin du mois.
Il faut bien vivre.
Bon, allez, mon petit Sacha, on fait une petite pause et à tout à l'heure.
Je suis pas tout seul à être tout seul, ça fait déjà ça de moins dans la tête. Et si je comptais combien on est, beaucoup, tout ce à quoi j'ai déjà pensé, dire que plein d'autres y ont déjà pensé, mais malgré tout, je me sens tout seul. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires et j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire, ces pensées qui nous font vivre un enfer, ces pensées qui nous font vivre un enfer. Est-ce qu'il y a que moi qui ai la télé et la chaîne culpabilité, mais faut bien se changer les idées, pas trop quand même, sinon ça repart vite dans la tête, et c'est trop tard pour que ça s'arrête, c'est là que j'aimerais tout oublier. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires, j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire, ces pensées qui me font vivre un enfer, ces pensées qui me font vivre un enfer. Réfléchis, et je sais vraiment pas quoi faire de toi. Justement, réfléchir, c'est bien le problème avec toi. Tu sais, j'ai mûrement réfléchi, et je sais vraiment pas quoi faire de toi. Justement, réfléchir, c'est bien le problème avec toi.
FM. Je j'ai voulu te réveiller, Sacha. Là, parce qu'il faut savoir que le technicien, il a le casque, si on crie un peu fort dans le micro, ça il casse les oreilles. Excuse-moi, mon Sacha. Donc, l'antenne est à vous, on revient. Et donc, toujours avec notre ami, monsieur Marcelin. On en parlait pendant la coupure. Moi, quand je reçois un auteur comme ça, un écrivain, c'est difficile pour moi, parce que je parlerai des heures avec. Et là, je sais que, par exemple, on va parler jusqu'à la fin de l'émission, mais il y a la moitié des choses qu'on aura... Hein,
Ah oui, il y a tellement à dire, il y a tellement...
C'est fou, hein.
Oui. Oui.
T'es fou. Et alors, voilà, maintenant, on va venir... on a parlé de ta poésie, on va venir c'était le troisième livre,
qui va bientôt sortir. Oui.
Qui va bientôt sortir. Alors, comment t'es venu l'inspiration de celui-là? Parce que c'est important,
oui.
Ça.
Alors, il y a eu plusieurs projets littéraires qui ont mûri. Il y avait un projet un peu autobiographique,
ouais.
Plusieurs histoires qui ont commencé, qui n'ont pas abouti.
Mais tu as fait quelques pages.
Ah, j'ai fait quelques pages.
Ouais. Alors, parce que moi, j'en ai 5 en cours.
Oui, ah oui, mais alors, moi, c'est vrai.
Et depuis 10 ans, j'en ai 5 en cours.
D'accord. Alors, c'est quoi ceux qui sont en cours? Oui, j'en ai pareil. Je dois avoir 5-6 qui sont
fou.
En cours.
Alors, en plus, j'ai écrit une pièce de théâtre, là,
oui.
Que je répète en ce moment.
D'accord.
Donc, bah, ça me fait plaisir. Toi, oui, aussi, tu en as plein en cours.
C'est pareil, au moins 5 qui sont en cours. Alors, des fois, c'est assez frustrant parce qu'on travaille de manière,
oui.
On va dire, rigoureuse, parce qu'un roman ou une nouvelle, c'est quelque chose de rigoureux. Il faut que ça se suive, il faut que les personnages soient cohérents. Bon, c'est un petit peu ce qu'on disait, la frise chronologique, le plan. Et c'est quand on est en train de travailler le côté le plus rigoureux et puis le moins évasif, le moins rêveur, qu'on a l'inspiration pour un autre roman qui arrive, un autre personnage qui
ouais,
prend le dessus
Ping.
Sur les autres. Donc il y a la frustration parce que d'un côté on traque la virgule, on corrige les petites fautes grammaticales parce qu'on en fait forcément quand on écrit vite, donc il faut se relire et les corriger. Et quand on rentre vraiment dans ce travail, on va dire plus laborieux, on a le côté, on est appelé par plus d'évasion, par d'autres personnages, par d'autres univers. Il faut arriver à sélectionner les deux.
Toi, tu es un genou, j'allais dire. Moi, j'ai commencé à entrer dans l'âge. Et je dis 5, j'exagère. 3, 4. Et comme je suis un tenace, et je ne voudrais surtout pas crever, comme on dit, sans les avoir finis.
Oui.
Mais c'est difficile. C'est difficile.
C'est difficile.
Ah, c'est difficile. Parce que pour avoir l'inspiration pour les 4 à la fois... Déjà que c'est pas évident.
C'est ça. Puis en plus, selon les sujets dans lesquels on s'engage, il y a un travail de recherche.
Mais oui.
Aussi, s'il y a un personnage qui à un moment donné doit parler de philosophie, eh bien, on va quand même relire un petit peu ses classiques ou l'auteur pour vérifier qu'on ne dise pas de bêtises.
Ou d'un pays.
Exactement.
Il faut d'une situation historique aussi.
Bien sûr.
C'est vrai que tu peux pas raconter n'importe quoi dans ton livre.
Bien sûr. Pardon.
Oui, alors, donc, ce que je veux dire, c'est que pourquoi tu as choisi celui-là plutôt que les 3 ou 4 autres? Le finir, tu l'as fini celui-là?
Ah, c'est 9 nouvelles, effectivement.
Bon, mais tu les as finies?
Elles sont terminées, c'est en phase de relecture, mise en page.
Est-ce que tu as mis dans une des nouvelles un que tu n'avais pas fini, justement?
Et plusieurs, même, oui. D'ailleurs,
tu vois, c'est ça qui est embêtant d'être interviewé par...
Non, mais on se comprend. Non, parce qu'en plus, j'avais commencé à écrire un livre sur le confinement, puisque j'avais essayé de mettre plusieurs. Et puis, bon, finalement, ça partait dans tous les sens, les parties n'étaient pas équilibrées. Donc, finalement, j'ai sorti plusieurs textes et je les ai transformés en nouvelles.
Ouais.
J'avais également commencé quelque chose de plus autobiographique. Et puis, bon, je me suis dit, j'ai pas assez pour alimenter un livre entier, ou alors je vais rentrer dans quelque chose de très. Voilà, de routinier, de langoureux.
Écrire pour écrire, c'est pas bon.
Non.
Les gens qui commencent, si tu permets,
bien sûr.
Qui commencent à te décrire, alors ça, moi, je déteste. Oui, alors, j'étais à tel endroit, alors l'arbre était comme ça, et ils te mettent 2 pages pour rien.
Oui, c'est
pour rien. Il n'y a aucune trame, aucun machin. Et alors là, il y avait un ruisseau avec des fleurs blanches et d'autres jaunes. Putain, mais arrête.
Oui, oui.
Il y a des fois que c'est important parce que tu as besoin de situer les mains. Mais il y a des fois que c'est vraiment du remplissage de pages. Oui, je ne sais pas si tu as remarqué.
Ça peut se ressentir. Parfois. J'ai tendance parfois dans certaines situations à partir dans des descriptions. Bon, après c'est un petit peu, mais après c'est aussi pour le plaisir aussi. Enfin, je prends plaisir à écrire, à décrire des paysages, à jouer avec les mots.
Voilà, c'est parce que ça entre dans la condition du roman, c'est-à-dire que le lecteur, il faut bien sûr qu'il sache où il se situe. S'il est au Ventoux, s'il est donc en montagne ou s'il est à la mer, bien sûr. Non, moi ce que je veux dire, c'est vraiment que tu le ressens, le remplissage de pages, tu vois.
C'est
ce
ça.
Que je veux dire. Là, mais sinon, c'est vrai qu'il faut quand même situer les choses.
Hein. Bien sûr.
Alors, dis-moi, maintenant, on a un peu de temps, tu vas m'énumérer ces 9 nouvelles.
Oui.
Tu aurais dû en faire 12 pour chaque mois.
J'aurais pu, c'est vrai.
Tu n'as pas pensé, hein ?
J'ai pas pensé en faire 12, j'ai failli en faire 10. Et puis, bon, il y avait un sujet qui aurait nécessité, justement, comme on disait tout à l'heure, un gros travail de recherche sur certains auteurs, sur des faits historiques, que je n'abandonne pas. Je veux dire, ça fait partie des 5, 6, 7 projets d'écriture qui, pour l'instant, somnolent un petit peu dans les tiroirs, sur les étagères, mais qui, à un moment donné, se travailleront. Et puis,
je te recevrai pour cela.
Et bien, avec plaisir, je reviendrai très volontiers.
Alors, parlons. Alors là. Déjà ? Alors, la première nouvelle.
La première nouvelle, elle s'intitule « L'antre des pérégrinations ». C'est d'ailleurs le titre du recueil de nouvelles. Elle se passe à Miramas, dans ma ville natale.
Les gens partent.
C'est en fait, bon, c'est mon alter ego, puisque bon, ça reste autobiographique.
Mais c'est pas toi.
C'est moi, puisque c'est quand même
il avoue,
il avoue. C'est la ville où je suis né, je parle de personnes aussi, de ma famille, donc c'est clairement moi. C'est mis d'un côté, on va dire, l'aspect, j'ai souhaité, c'est l'histoire de chacun, on a tous des projets de vie, puis on prend une autre orientation, on pense voyager, puis finalement on voyage sur un périmètre très réduit. Bon voilà, c'est sous cet angle-là que j'ai raconté ma petite autobiographie sur une petite dizaine de pages, puisqu'il s'agit de nouvelles.
Tu le signales, c'est ton autobiographie ou les gens que t'en fiches?
Non, je ne l'ai pas signalé.
Enfin, qu'il y en a qui disent que c'est autobiographique, etc. Tout ça.
C'est pas précisé dans cette nouvelle-là, non.
En musique? Allez, à tout à l'heure, chers auditeurs.
Quand tu vois son beau sourire aux lèvres devant toi, juste comme ça, la belle est charmante. Oui, mais la belle est prudente. Tu peux t'approcher, mais tu peux pas la toucher. C'est la règle. Si tu vas la casser, tu devras le payer.
Fly FM a atteint les paluts sur 89.9.
Et c'est reparti pour l'antenne est à vous sur Fly FM, la radio des Sorgues du Comtat et la radio du Vaucluse et de la région PACA. Bien, alors, donc, tu nous as parlé de ton premier, j'allais dire chapitre, c'est pas un chapitre, c'est
la première nouvelle.
Voilà. Alors ensuite, la deuxième, pardon, vas-y.
Alors la deuxième se passe à Arles, c'est la ville où je vis aujourd'hui.
Ouais.
Donc là, on est dans une fiction tout autre, où il est question... Les personnages appellent justement la description de la ville,
ouais.
puisqu'il s'agit d'une photographe qui vient sur Arles et qui avec le narrateur, se promène dans la ville. Donc ça permet de...
C'est une sorte de visite guidée, quoi.
C'est une jeune photographe qui rencontre un Arlésien et puis pendant les rencontres de la photo et donc il a.
Oui, c'est vrai qu'il y a une belle.
C'est ce qui fait l'identité arlésienne entre autres. Mm-hmm. Donc c'est l'occasion de découvrir la ville d'un point de vue historique, patrimonial et d'interroger voilà un petit peu l'architecture urbaine.
Il y a de quoi faire.
Il y a de quoi faire.
Autre chose, tes nouvelles le font combien de... J'allais dire, bon, c'est jamais la même chose, mais peu près combien de pages de chaque recueil à peu près?
Ça va environ de 5 à 10 pages, 5 à 12 pages, voilà. Une petite dizaine. Voilà,
parce qu'il ne faut peut-être pas lasser non plus, si ce sont des nouvelles, justement, il faut faire en sorte que ce ne soit pas non plus... pénible à lire après, comme dirait l'autre. Donc 10 pages, quoi.
10 pages, des histoires courtes, ça se passe dans les villes. Beaucoup de réflexions, d'interrogations sur le temps passé, sur le temps à venir.
Ouais, c'est intéressant, ça.
Voilà, c'est un petit peu ce qui rythme les différentes nouvelles.
Voilà. Donc ensuite, la troisième, donc.
La troisième, qui se passe à Uzès.
Qui est encore pas loin,
voilà, on reste quand même globalement dans la région.
Ouais.
On va un peu plus loin à La Ciotat ensuite,
Où
il est beaucoup question de cinéma, puisque bon, il y a le
bien
cinéma L'Éden à La Ciotat, sur les pas des Frères Lumière, donc c'est un scénariste justement qui s'interroge en fait sur le film qui est en train de sortir, dont il est le scénariste, comment il va voir le film. Donc je parle beaucoup d'écriture, on parle d'écriture ensemble à l'heure. Bien sûr. Puisque le scénariste dit comment ce que j'ai écrit va être mis en scène, comment les scènes dans le film vont être transposées, qu'est-ce que je vais devoir écrire ensuite pour continuer à vivre. Donc voilà, il y a beaucoup de questions de cinéma dans celle-ci.
Tu sais que un petit renseignement, tu parlais des Frères Lumière, le meilleur ami des Frères Lumière, qui les aidait d'ailleurs à tourner le machin, entre autres en Angleterre, s'appelait Tréouet.
Oui.
Félicien Tréouet, qui était originaire de Monteux.
D'accord.
C'était un illusionniste, il faisait plein de machins. Et justement, Tréouet avait fait venir les Frères Lumière à l'époque. Je te parle parce que justement, pour mon livre, j'y ai. Et justement, ils étaient venus sur Monteux passer quelques jours chez Tréouet.
D'accord.
Voilà. Sais que tu n'en as rien à faire, mais...
Bon. Ah non, c'est très intéressant. D'ailleurs, c'est vrai que j'aime beaucoup le cinéma, particulièrement le cinéma français. Je cite plusieurs films, justement, dans cette nouvelle-là. Ouais. C'est un art, en tout cas, qui m'a toujours attiré. D'ailleurs, très jeune, j'avais pensé faire des études dans le cinéma. Quand je dis très jeune, c'était à l'âge de 14-15 ans.
Oui.
Le métier de réalisateur était un métier qui m'intéressait. Je me suis vraiment passionné par les techniques de cinéma... sur la forme plutôt que sur la forme, comment un film est tourné, pour commencer plus sur une ombre, plus sur un profil. Enfin, voilà, ce sont toujours des questions que je me suis posées et j'ai toujours aimé attirer mon œil sur ce type
de scène. Alors, moi, si j'avais été... Ça, Sacha, écoute bien. Si j'avais été, moi, dans le cinéma, j'aurais préféré faire acteur, moi, tu vois. Tourner les scènes d'amour avec Brigitte Bardot.
Ah, très bien.
qu'est-ce qu'il y a de ça? Non, voilà. Voilà, un petit jeune maintenant. Il y a le game, tu sais, maintenant,
oui.
ils ont plus que ça en tête, les
oui.
games.
Et oui, machins, oui, oui.
Les GTA, mais, tout ça, là, voilà.
Mais d'ailleurs, mon personnage dans la nouvelle La Ciotat dit si j'avais pu tourner avec Isabelle Huppert, si j'avais pu tourner avec Michel Morgan, si j'avais pu tourner avec Catherine Deneuve, il fait les éloges de ces actrices-là.
Clara Morgan aussi, moi, j'aurais.
C'est un autre style.
Bon, allez, redevenons sérieux. Mais, comme on disait, il faut un peu d'humour. Hein,
Bien sûr.
Hein, les écrivains, on a beaucoup d'humour. Alors, donc, la troisième, tu m'as pas dit... Si, tu m'as dit ça passait à Uzès.
Uzès, oui.
Après, quatrième, La Ciotat, c'est ça ?
La Ciotat.
Et la cinquième.
Ensuite, la cinquième, on va aller un peu plus haut, à Lorient.
Ah, c'est un peu plus haut,
oui. Plus haut.
Oui, oui, je croyais l'Oriol du Comtat, là, non c'est
Non, pas... donc, Lorient en Bretagne.
Ah oui, d'accord.
Alors, ça me permet de parler de mon arrière-grand-père qui était breton, à travers un personnage totalement fictif.
Ouais.
J'ai eu l'occasion d'aller à Lorient, j'ai fait un séjour de deux jours, pour raison professionnelle, il y a quelques temps. Bon, voilà, je transforme, il s'agit d'un marchand de vin qui y va, puis après, bon, c'est donc...
C'est pareil, le but, hein, il faut imaginer, bien sûr.
Bien sûr, je parlais de Carpentras tout à l'heure, aussi, donc...
Oui, alors Carpentras, qu'est-ce qui se passe à Carpentras ?
Carpentras, c'est l'histoire d'un architecte qui a répondu à un appel d'offres pour réhabiliter une école à Carpentras. Alors, je ne connais pas les écoles de Carpentras, je ne dis pas laquelle. Il s'agit de réhabiliter une école. S'il répond à un appel d'offres, il va être reçu par une fonctionnaire de la mairie.
C'est pas autobiographique parce que je les connais toutes, au moins, les fonctionnaires.
D'accord, ce n'est pas autobiographique. J'ai d'ailleurs veillé à inventer un nom moi-même. Ah. Si vraiment ça tombe sur le nom d'une fonction de la mairie, c'est que vraiment j'aurais pas de chance. Ou alors trop de chance.
Trop de chance.
Alors ce moment-là, il faut me le dire de suite, j'irai jouer au loto et je partagerai le gain avec cette personne-là.
Ah bon ? Bon, Sacha, t'as vu ? Il est généreux, notre invité. Hein.
Alors, j'éviterai le procès peut-être aussi.
Ah, il y a peut-être, ouais.
Mais bon, aussi. Voilà, ça permet de faire circuler le personnage, voilà, dans la ville.
Ouais.
D'ailleurs, elle est surnommée Aliénor du Comtat. C'est pas Aliénor d'Aquitaine, c'est Aliénor du Comtat.
Ça, oui, le petit rapprochement est sympa. Ouais.
Voilà, parce qu'il est subjugué justement par cette fonctionnaire qui l'interroge pendant le jury d'appel d'offres. Et donc, il se dit, mais en fait, c'est une charmante fonctionnaire.
Il a une crush,
voilà, pour cette personne qui pourtant est le titille pendant l'entretien.
Il est un peu maso, quoi.
Un petit peu, en tout cas, il est très indulgent avec cette femme-là.
Ouais.
Et donc, il dit, en fait, c'est pas madame la directrice, c'est Aliénor du Comtat. D'ailleurs, elle défend son territoire.
Il faut pas le dire, il a le marché ou pas?
On ne le sait pas. Lui-même, quand il a terminé la nouvelle, il n'a pas encore reçu, puisqu'il sort de l'entretien et il ne sait pas s'il a le marché.
Bon.
Donc,
Alors, 30 secondes, on ne va pas continuer parce qu'on va être coupé au milieu encore. Donc, une petite musique. Alors, c'est Skiller, Wind and Igor Yov. C'est ça, Sacha? Allez, à tout à l'heure.
S'achève, je ne te vois pas. Secret caché, perdu sans toi.
Quand je pense à nous deux, près du Saint-Laurent.
Entre nous, y a du bleu. Un regard dans le vent. Et puis après,
je ne sais pas.
It's not enough. If I do, I think of you.
I lost my mind.
You lost me there.
It's hard to find.
C'est pas très clair. Honestly, 'cause if I do, I'll dream of you. Pense à nous deux, près du lac Léman. Entre nous, y a du
think of you.
Ou votre événement, la radio est le moyen de communication de proximité qui touche un maximum de personnes en un minimum de temps. Faites appel au service pub de Fly FM, la radio des Sorgues et du Comtat. Notre station vous proposera un projet personnalisable. Situé au cœur des Sorgues et du Comtat, communiquer sur Fly FM, c'est la certitude d'être plus proche des Vauclusiens. Conforter une image de marque, valoriser un produit, confiez votre campagne publicitaire à Fly FM pour un rendu professionnel et de qualité. Pour plus d'infos, contactez Roland au 07 82 20 18 81. 07 82 20 18 81, votre interlocuteur privilégié.
Et voilà, nous sommes toujours sur Fly FM, l'antenne est à vous, et malheureusement, on disait ça pendant la musique, ça va vite, hein.
Ça passe très
quand
vite.
Quand c'est intéressant, ça va vite, hein, franchement, trop. Et d'ailleurs, je t'ai demandé, tu as eu la gentillesse de me dire que tu reviendras pour discuter.
Avec grand plaisir, hein, c'est un plaisir d'être ici.
Voilà, bon, pas de suite, parce que après on va en avoir marre de te voir.
Ah ben oui. Faut non, pas que je fasse baisser l'audience quand même.
Non, pas du tout, je pense pas. Et donc, voilà. Alors, j'ai les trois derniers. Allez.
Alors les trois dernières villes pour chacune des nouvelles. Une se passe à Sorèze dans le Tarn.
Ouais.
Où il est question
de nature,
surtout de vie et d'histoire, et puis surtout de questionnement sur le temps.
Temps qui passe sur le temps.
Le temps de vie, on se voilà, concentre sur le temps de vie. Il s'agit d'un homme de 30 ans. D'ailleurs, je fais écho au journal d'un homme de 30 ans de François Mauriac dans cette nouvelle-là, et de là par une réflexion sur le temps. Dans ce contexte-là qui s'y prête.
Ouais. Alors après, la huitième.
Ensuite, Marseille.
On ne pouvait pas l'échapper.
J'ai quand même passé 5 ans de ma vie. J'ai travaillé, je l'ai arpenté dans les moindres recoins. Donc,
tu ne parles pas de l'OM, j'espère.
Je ne parle pas de l'OM, non.
Parce que c'est des choses qui fâchent, ça, attention.
Hein. Non, ça se passe, c'est le sursis du 16 mars 2020. Ce que je disais tout à l'heure, que j'avais commencé un peu à écrire sur le confinement. Donc, j'ai extrait justement une partie de ce roman inachevé et interrompu dans cette nouvelle. Et pourquoi le sursis entre guillemets? Puisque je fais écho au roman Le sursis de Jean-Paul Sartre.
Ah oui, puisque, très beau d'ailleurs.
Très beau roman, où justement les Français s'interrogent en fait sur les accords de Munich. Vont-ils entrer en guerre ou pas? Et bien le 16 mars 2020, on s'interrogeait sur le fait, allons-nous être confinés ou pas? Et donc c'est ce parallèle-là, ouais, ça se
celui-là
passe.
Celui-là, il est moins rigolo que les autres peut-être. Non, c'est un des plus, sérieux. Non, sur les neuf. Parce que bon, c'était quand même une période.
C'était une période très compliquée, même si aujourd'hui on le regarde avec du recul passé. À l'époque, c'était. Alors, attention, c'est vrai que la partie à l'heure d'être confiné ou pas, on le voit différemment, mais bon, voilà, ça a quand même été une période qui était très complexe. Il ne faut pas oublier les personnes qui sont tombées malades, et les personnes qui sont décédées aussi. Donc c'était une période beaucoup plus sombre. C'est surtout axé sur l'interrogation qu'allons-nous venir, et puis bon, ce déplacement dans Marseille et cette description de Marseille aussi qui sort du contexte dramatique. De ce moment-là et qui fait écho justement à l'entrée de guerre ou pas, entrer en confinement ou pas.
Bon, et le 9e ?
Et le 9e, bon, ben, on ne pouvait pas y échapper quand même en France, Paris.
Ah oui, quoique Paris. En fait,
bon. La capitale, bon.
Et voilà, donc tu finis sur une note Paris, réjouissante. Tu parles de.
Un peu plus.
Pigalle, non, pas Pigalle.
Non, pas Pigalle, non. Là, on reste autour des Invalides dans ce quartier-là.
Qui est magnifique d'ailleurs.
Qui est magnifique, tout à fait. Une histoire un peu plus sentimentale. D'ailleurs, des amours capitales. Ah. On aime bien, quand on fait la poésie, mettre les amours au pluriel féminin.
Bien sûr, bien sûr.
Donc des amours capitales, voilà.
Ouais, d'accord. Alors, c'est déjà 54, donc on va bientôt terminer. Je voulais te poser une question, moi qui me taraude, moi personnellement, et que je trouve très, 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 très grave. C'est l'intelligence artificielle dans notre, j'allais dire, notre métier, dans notre passion.
Oui.
C'est terrible, ça. Moi, je te le dis. Tu sais ce que j'ai fait, moi, pour rigoler? Tu as essayé, non? Essaye-le. Tu as le site Chaton, là, non? Tu n'as pas?
Alors, je ne le connais pas, ce site.
Bon, mais tu vas où? Il y en a d'autres. Hein. Oui. Tu vas sur un des machines, d'intelligence artificielle, et par exemple, histoire de, je vais dire une bêtise, de Sacha qui rencontre une jeune fille, etc. Eh bien, le machin, il te fait le roman.
Oui, alors.
J'ai
vu une émission justement où il était question de personnes qui écrivaient des livres entiers par l'intelligence artificielle.
Ah, non, là
où
j'en connais.
D'accord.
J'en connais déjà une ou deux personnes. Sacha, elle connaît. Enfin, oui, parce que j'ai réussi percer le secret.
D'accord.
Bon, franchement, c'est grave ça quand même.
Alors, c'est un outil, comme tout outil.
Je veux bien.
Mais par contre, il faut être vigilant sur l'utilisation que l'on en fait. On rentre dans une nouvelle ère, et c'est vrai qu'il y a eu l'époque où on a découvert Internet, et ça a été très compliqué pour les artistes aussi.
Oui.
Mais
là, tu n'as plus besoin d'inspiration.
Et là, il n'y a plus besoin d'inspiration.
C'est ça qui est grave. Et l'inspiration, c'est que ça, là, à l'écriture.
Bien sûr.
Ça va même plus loin que ça.
Ouais, dis-moi.
Ça va même plus loin que ça parce qu'il y a carrément des personnes qui font des grosses dissertations de philo et tout. Alors, pour te dire à quel point, Roland, ça va très loin, généralement, les profs, ils sont habitués à ce genre de pratique.
Ouais.
Ça a une dizaine d'années, l'intelligence artificielle. C'est pas non plus tout très vieux, mais ça a une petite dizaine d'années. Bon, il y a 10 ans, il y avait beaucoup de progrès à faire, mais là, actuellement, les progrès sont assez colossaux. Oui. Et littéralement, les profs sont habitués à ça.
Ah, comment ils font ?
Les profs sont habitués à ça parce que eux-mêmes utilisent l'intelligence artificielle pour vérifier le texte en question.
D'accord.
Voilà. Ils n'utilisent pas ça pour faire leur cours, mais ils utilisent ça pour vérifier le texte. Le problème, c'est que maintenant, on leur demande, oui, vous devez faire une disserte et vous devez me la donner par manuscrit.
Oui.
Donc pour recopier tout un texte.
Ah, d'accord.
C'est long. Alors ce qu'ils font, c'est que tu as un site dont je ne connais plus le nom.
Écrit.
Mais littéralement, tu prends le texte, le chat GPT justement t'a annoncé.
Ouais.
Tu le mets sur le site.
Et ça
le site va te générer une feuille avec toutes les lignes, d'accord, donc les lignes de grammaire, et ton écriture, d'accord, manuscrite.
Oh, mais non.
Alors,
mais...
attends, je continue. Ton écriture manuscrite. Et une fois que c'est bon, tu corriges 2-3 trucs pour que ce soit parfaitement parfait.
Oui.
Tu corriges 2-3 trucs au niveau du texte
et
au niveau de ton écriture.
Oui.
Même littéralement, les boucles des lettres, tu peux les modifier pour que ce soit le plus manuscrit possible.
Oui, oui.
Tu imprimes ta page en couleur et pouf, tu as ta page de disserte. Et au lieu que ça te prenne 3 semaines à écrire, ça t'a pris 2 heures.
Bravo.
Bravo.
Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose à inventer pour protéger justement la création artistique, comme ça a été fait à l'époque d'Internet, puisqu'il y a eu la loi Adopi, on pose ce qu'on veut, on rentre pas dans le débat. Mais voilà, il a fallu créer des outils pour protéger des garde-fous.
Et
il va falloir trouver la même chose pour l'intelligence artificielle. Je ne sais pas comment on va faire.
Et ce qui est le plus grave, c'est qu'on a pris 2 feuilles qui a été écrites par un élève de philo et par une intelligence artificielle. Le chercheur en philosophie n'a pas pu deviner quelle feuille était écrite avec l'élève.
Bien sûr.
Parce que c'était la copie conforme.
Oui, mais c'est fantastique, c'est ça. Mais c'est vrai que c'est fantastique. Là, ce que je t'ai dit, là, que j'ai fait le fac-similé, on va dire. Mais je te jure, c'est écrit magnifiquement. Oui. Oh, ils te décrivent des justement, on parlait de paysages.
Oui.
Mais c'est fou. Ah oui, une lettre d'amour, tiens. Tu fais une lettre d'amour.
Je voudrais vous montrer tout à l'heure après l'émission, c'est hallucinant.
Ah oui, mais la lettre d'amour, tu la trouves jamais, toi. Même toi qui es poète, c'est fantastique. Hein,
parce qu'ils vont chercher des codes, ils vont chercher des extraits sur Google, c'est un peu partout, je ne sais pas quoi ça fonctionne. En tout cas, oui, ils arrivent.
C'est terrible. Dis-moi, peut-être qu'on va y aller. Hein. Oui, parce qu'on arrive à 18h.
Le temps passe vite.
Ouais, trop. Alors, tu peux dire au revoir à nos auditeurs.
Bien sûr. Eh bien, écoutez, oui, un grand merci pour l'écoute de tous nos auditeurs. Un grand merci, justement, à toi et à toute ton équipe.
Ben, à 100 euros.
Roland, Sacha, merci beaucoup.
On partagera la part.
Un grand merci, en tout cas, de votre invitation, de votre accueil.
C'est
un grand plaisir. À moi aussi, un grand plaisir.
Moi, tu sais, il y a des émissions, tu prends moins de plaisir que d'autres, hein, parce que, bon, je sais pas ton trip, c'est pas, mais des fois. Mais là, vraiment, ce soir, c'était sympa. Moi, dès qu'il y a écrivain, c'est.
Alors, on se comprend.
On se comprend. Hein, bon, et puis.
On se comprend.
Alors, Sacha.
Merci.
Tu dis au revoir et dépêche-toi.
Eh bien, au revoir. Merci de nous avoir écoutés.
Au revoir, chers auditeurs. Ça a été un grand plaisir, comme tous les lundis soirs, à mercredi, dans Culturez-vous. À bientôt.